La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Monsieur Hanberg.
Monsieur Cassavant, regarde, juste encore, t'oublies de temps en temps.
Ouais. Oui, le boss.
Oui.
Monsieur Russ Hanberg, en direct du bureau, pendant que moi, je suis en direct de mon bureau à domicile.
Ouais.
Monsieur Hanberg, il nous reste seulement deux...
Non. Laisse pas être de ton bureau à ton domicile. T'es à ton domicile. Bureau, c'est quand tu quittes la maison. Tu comprends? Ouais, quand
t'es à la maison... Je suis au bureau.
T'es à la maison. T'es pas au bureau. Moi, je suis au bureau. Toi, t'es chez vous.
Donc, ton bureau, dans ton sol, c'est pas un bureau.
Non, c'est juste une table là, où je travaille. C'est tout. C'est mon sous-sol. C'est mon table de snooker. C'est un sous-sol. OK, ici, ouais, c'est le bureau. Mais
on n'a pas assez le temps dans le balado de cette semaine pour avoir ta pensée complète sur le travail à la maison. Mais ce serait pour un segment avec Mario Dumont un jour sur LCN, j'en suis sûr.
OK, parfait. J'aime bien Mario. Parfait.
Parce que, écoute, M. Hanberg, il nous reste deux balados et on remercie les gens qui nous écoutent sur Cube Radio, Spotify, TVSport.ca, tous les méthodes de plateformes audio ou visuelles pour le balado. Car on a cette semaine et la semaine prochaine en direct de Riyad. Tu seras de retour pour le combat de Arslanbek Makhmoudov face à Agit Kabayel. Il y a également Deontay Wilder, Anthony Joshua, Dimitri Bivol et un paquet d'autres poids lourds en action. Bivol, le seul qui n'est pas poids lourd de la carte. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Cette semaine, on a d'autres gros dossiers, Russ. Et également, j'ai une nouvelle pour les gens qui me demandent comment on peut écrire à M. Russ Hanberg, car 2024, peut-être, Russ, ce sera admissible sur Twitter/X. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Les gens ne peuvent pas t'écrire en 2023 sur Twitter.
Mais Matt, je comprends pas ça. Hein, mais je suis même pas capable de faire appel à ça. J'ai besoin que tout le monde qui me suit ou qui me suivait sur Twitter... peut faire une prothèse de dire, ça n'a pas de sens, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour être banni à vie? Tu parles que Elon Musk, c'est le gars qui parle de free speech, puis ah ouais, droit de parole, puis tout, puis il redonne la plateforme à, comment il s'appelle, Jones, c'est quoi son prénom? Alan Jones, c'est quoi son prénom?
Alex Jones, oui.
Alex Jones, lui, ils ont donné son plateforme de Twitter, puis Tiras, il l'a pas, voyons donc, man. Quelque chose qui est pas right dans le monde, je comprends pas ça, man.
Ouais, donc on est en train de faire appel à Elon Musk, voir en 2024 s'il va changer son fusil d'épaule. Mais donc, pour l'instant, les gens qui veulent nous écrire des questions, commentaires, et oui. Même quand Russ pose des questions à nos auditeurs, ça va être le adresse courriel suivant. Le dernier round, le nom du balado, le dernier round box, B-O-X-E, à gmail.com. Donc, le dernier round box à gmail.com, on a l'adresse courriel. Vous pouvez nous écrire commentaires, questions, ça va nous faire plaisir à vous lire de temps en temps sur le balado.
Qui a pensé à ça?
Monsieur Matt Cassavant.
Ah, puis monsieur Cassavant, d'abord, pourquoi qu'on était obligé de mettre le dernier round box puis pas juste le dernier round?
C'est une très bonne question, Russ. Pourquoi penses-tu que j'ai pas pu juste écrire le dernier round à gmail.com?
Parce que t'as pas pensé à ça.
Non, pensé. Je sais que tu n'as pas trop de crédit, mais j'ai pensé. La raison qu'on doit ajouter le mot box.
Parce que quelqu'un y avait déjà le.
Ah! Hey, Russ, c'est sûr. Donc, okay. Exactement. Le dernier round box, parce que je voulais pas rajouter plein de chiffres puis plein de lettres qui n'ont pas rapport. Donc, le dernier round box à gmail.com, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bon, Russ, on a plusieurs sujets cette semaine au balado. On va commencer avec le combat Devin Haney et Régis Progrès. Jean-Pascal qui était au balado avec nous la semaine dernière, on avait
quel
deux
combat.
Ouais. La performance de Devin Haney, parce que Jean nous avait demandé notre opinion, on avait dit Haney est favori pour une raison, Mais je pense pas qu'on pensait que Progrès allait être si peu offensif après tout ce qu'il a parlé durant la semaine du combat et même les semaines précédentes. Progrès, c'était décevant. Mais toi, tu préfères, dans le fond, tu blâmes plus Progrès que donner le crédit à M. Devin Haney?
Juste pour que je me... J'haïs ça quand je flippe d'une barre à l'autre, je veux être sûr puis constant dans mes propos. Je m'attendais pas que ça soit si facile que ça, ou si one-sided, sens unique, comme qu'on dit. Mais je vous avais dit que tout le monde disait, ah, il cogne fort pour Progrès, il cogne fort. Mais j'ai dit que grâce à son dernier performance, j'ai rien vu de étonnant de dire qu'il peut être une menace à Devin Haney.
Oui.
Est-ce que c'est vrai que...
Oui, c'est ça que tu dis.
Donc, oui, j'étais déçu. Est-ce que je donne crédit à Haney? C'est sûr que tu es obligé de donner crédit à Haney, là, tu sais, c'est lui qui était l'autre 50% dans le ring, là, tu sais, il était l'autre gars. Mais une performance décevante de la part de Haney. Puis là, je vais te demander encore
De Progrès, performance décevante de Progrès.
Progrès. Je vais te demander encore de faire une traduction pour moi parce que je pense que ça applique ici, surtout que toi, tu as dit avec tout le parler que Progrès avait fait, c'était un exemple de all sizzle and no steak.
Oui.
Ça serait quoi l'équivalent en bon québécois?
Grand parleur, petit faiseur, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'était beaucoup basé sur le flash et il y avait manqué de substance.
Absolument. Tout flash, aucune substance. Qui est digne de notre monde? Dans notre monde aujourd'hui, puis surtout le monde de la boxe. Tout le monde veut parler, même des gars qui font de sous-cartes, des combats de quatre rondes, on a jasé de ça. T'sais, les entrées dans le ring, puis ah ouais, la musique, puis tout le kit, puis des uniformes, ils portent des uniformes qui vaut plus que l'argent qu'ils gagnent dans leur combat, puis ils sont à leur deuxième combat professionnel, mais ça, c'est plus important que le produit, puis de dire, moi, je suis bon. Mais d'être bon dans des combats de quatre rondes, ça veut rien dire. C'est d'être bon dans des combats de 12 rondes que ça compte. Ou au moins 10. Dans des combats finales, des 10, des main event fights, là, tu sais. En tout cas, c'est typique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais Progrès, par contre, par le passé, il avait démontré des belles choses. C'est pas typique de lui d'avoir une performance de ça. Mais il était sur la pente descendante.
C'était sa deuxième. L'autre performance avant ce combat-là ne donnait aucun espoir. C'est ça que j'avais basé ma prédiction. J'ai dit, j'ai rien vu d'inspirant qu'il va faire quelque chose de bien quand il a paru mal contre quelqu'un qui l'a boxé un peu. J'ai dit, imagine qu'est-ce que Haney va faire avec ça, là. T'sais, Haney, il est talentueux, là, man. Il est dur à toucher, il est talentueux. T'avais de la misère contre un gars ordinaire. En tout cas, ça, c'est moi.
Donc, Devin Haney, à 140 livres, première performance dominante. Là, on regarde le reste de la division. C'est une des divisions probablement les plus excitantes. On a parlé de ça la semaine dernière. Entre, moi, je pense, 140 et 168 livres en ce moment, on peut débattre. Mais quand on regarde Teofimo Lopez, tu regardes Josh Taylor, que lui vient, par exemple, d'avoir une grosse défaite, peut-être sur la pente descendante également, Russ, on y reviendra. Mais tu as Ryan Garcia qui vient de faire son entrée à 140. Tu as plusieurs gros noms, si tu veux même ajouter Catterall. Il y a Sander Martin, qui est un aspirant obligatoire. T'as des combats à faire avec Devin Haney et Devin Haney également pogne sur les réseaux avec Gervonta Davis. Gervonta Davis qui est plus petit qu'Haney, mais le combat pourrait avoir lieu à 140 si Davis décide de monter. Qu'est-ce que tu penses qui est la suite des choses pour Devin Haney? C'est quoi le combat qui t'excite le plus de voir de lui? Ou est-ce que tu dis quoi? Loma, ça prouve à quel point que Loma est très, très bon parce que beaucoup de gens pensent que Loma a battu Devin Haney à 135 et Loma est peut-être même meilleur qu'on peut se penser si Devin Haney à 140 peut être aussi dominant. Tu n'es pas tant excité de voir la prochaine performance de Devin Haney.
Juste me dire, si on va retourner où je pensais que tu t'en allais, quand tu as dit Haney à 140 livres a monté dans le ring à 165.
Oui, j'y allais venir de cette situation qu'on parlait de réhydratation et la...
Parfait.
Mais veux-tu commencer par ça ou tu veux-tu aborder la division en premier?
En autant qu'on va en parler, j'ai aucun problème, je peux répondre à ta question. Je sais pas où ça va aller. Je pense que à chaque fois qu'on parle d'une division qui est excitante puis qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'affronter, on attend, puis on attend, puis on attend. puis les combats ne se fait pas.
Ben, il y a une limite. À 135 livres, on a vu Haney Lomachenko, on a vu Ryan Garcia, Tank Davis, on a vu quelques-uns que ça n'a pas pris autant de temps que prévu. Mais après ça, tu as les exemples de Crawford Spence qui est le contraire. Mais dans les divisions, à date, les Devin Haney, tu peux pas le reprocher de vouloir affronter les meilleurs. Toi, je sais que tu l'aimes pas à cause de la défaite contre Lomachenko.
C'est pas parce que je l'aime, mais c'est pas à cause de ça, de l'aime, mais...
Mais comment tu peux pas lui donner crédit par rapport... Son premier combat, il est allé contre Régis Progrès.
Champion. Premier, écoute, qu'est-ce que t'as dit?
Son premier combat, il est allé de Lomachenko à Régis Progrès.
Ben oui, OK, mais... T'as battu un gaucher en Lomachenko, ouais, qui est cinq fois le boxeur que Progrès peut jamais être dans sa vie. Cinq fois le talent de Progrès. Maintenant, tu montes de catégorie, tu t'embarques dans le ring et tu payes 165 livres. Et moi, je pense pas que c'était un gros risque. Moi, je pense que Progrès était surtout basé sur son dernier performance.
OK, mais c'était quand même un combat à la carte. Les gens s'attendaient à un combat presque 50-50.
Pardon?
C'était un pay-per-view pour une raison, parce que les gens pensaient que c'était un combat. Il y avait quand même beaucoup de gens qui croyaient que Progrès pouvait gagner. Là.
Tu penses?
Ben oui, je me souviens, j'ai lu les commentaires.
C'était quoi les cotes de gager?
Haney était favori à quasiment 4 pour 1.
4 pour 1, c'est notre 50-50, mon ami.
Non, c'est pas 50-50. C'est un bon okay. point.
Oui, c'est un bon point.
OK. Mais donc là, t'es pas tant excité par Devin Haney, mais moi, je pense que Devin Haney et Ryan Garcia pourrait être un combat ultra excitant.
Oh, oui.
Garcia serait dans le trouble. Haney contre Teofimo Lopez, peut-être le meilleur combat que tu peux avoir dans la division, et je pense que Lopez est meilleur que Haney. Okay. Ou Haney Tank Davis, ça c'est peut-être le plus gros pay-per-view que tu peux avoir entre les deux qui parlent beaucoup.
Mais
sur les
tu désavantages Tank beaucoup en disant qu'il faut que ça soit à 140 livres. Le gars, il était champion à 130 livres.
C'est Bill Haney, le père de Devin, qui a dit c'est 140 ou rien pour Tank
Davis.
Exact.
Fait que là, tu étais capable de me nommer trois combats qu'on n'a pas eu. Mais t'as réussi à me nommer deux combats dans je sais pas combien d'années qu'on a réussi à faire. Donc, les combats qu'on a réussi à faire, c'était l'exception et pas la règle.
Oh ouais, mais j'essaie d'être d'un côté plus optimiste, là. Toi, t'es pessimiste en ce moment, ou tu vas dire réaliste.
Réaliste.
Et moi, je regarde Haney, à date, c'est pas lui qui a le problème à faire des combats. On peut lui reprocher des choses, mais on peut pas lui reprocher d'affronter des bons boxeurs. Il demande pas un paquet de tune-up, là.
Non, mais je pense qu'il y a, peu importe qu'est-ce qu'il dit de Mayweather, il a pris un livre de Mayweather de choisir. Lui, il voulait absolument pas rester à 135 livres encore parce que il sait que Lomachenko est là. Il voulait pas rester là. Il veut pas lui donner le combat revanche. C'est impossible. Il y a personne qui va donner le combat revanche à Lomachenko, OK? Fait qu'il fallait qu'il se prie à une autre catégorie vers le haut à 140.
Oui, mais attends, c'est pas juste pour ça qu'il était à la 140. Tu viens de dire qu'il pesait 25 livres de plus le lendemain.
Exact. Ouais, ça, c'est
donc, il était plus capable de faire 135.
Oui, peut-être qu'il n'était pas capable de le faire. Puis, il est allé choisir un gars qui faisait très bien son affaire. Il vient de finir un long camp d'entraînement avec des gauchers préparés. Ouais. Là, il a juste continué ça. Il a solutionné le problème de gaucher. Puis, comme je te dis, il a vraiment fait un step down en affrontant Progrès. Comparativement à Lomachenko. C'est bien aligné pour lui. Oui. Je ne le néglige pas, j'essaie pas de le discréditer, mais tu sais, il y a beaucoup de combats qui pourraient se faire, puis on dirait que chaque boxeur, puis si tu veux, on peut monter jusqu'à Milo, que Bivol, ça fait combien de temps qu'il est champion, il a battu Canelo, puis là, il va faire son premier combat contre Popeye.
Son deuxième. T'oublies à chaque fois qu'il s'est battu contre Ramirez, mais
c'est vrai. C'est vrai. Puis après ça, en tout cas, t'as battu Canelo, puis là, tes deux autres combats. Puis on a Biva, puis on a Beterbiev qui est dans cette catégorie-là depuis combien de temps? De dire oui, on fait les combats. Non. De temps en temps, oui, on fait des combats que le monde veut voir. Comme finalement, on va voir Usyk puis Fury, on espère. Oui. Et ça a pris combien de temps? J'avais raison. Pendant 2 ans que j'avais raison qu'il
a pris. Moi, je te parle pas de tout. Le monde de la boxe, on le sait que c'est le plus gros problème des meilleurs qui affrontent les meilleurs. Je parle de la nouvelle génération des jeunes de 135-140. Les Teofimo Lopez, Ryan Garcia, Devin Haney, Tank Davis, je peux pas les reprocher d'éviter beaucoup de combats jusqu'à présent dans leur carrière.
En fait, Ryan Garcia, c'était un des seuls qui a vraiment call out quelqu'un, puis il a callé Tank Davis. C'est lui qui l'a fait. Il faut que je lui donne crédit pour ça. Puis il voulait le combat, puis ils ont fait le combat. Puis ouais. il a pris son défaite comme un homme, là. T'sais, ouais. Moi, je peux pas lui rapprocher de ça.
Regardez sur le sujet de Teofimo Lopez, puis les gars qui n'ont pas voulu affronter Lomachenko une deuxième fois, c'en est un autre.
Pardon?
Et quand j'ai pensé, tu sais, tu parles que Devin Haney voulait aucune revanche contre Lomachenko. Teofimo Lopez, pas plus.
Non plus.
Lui aussi, c'est sauvé ça. George Kambosis, des revanches, c'est correct. Ils ont donné un combat revanche de
Devin Haney. Ben oui. Pas de problème. Tu gagnes 11 rondes sur 12. C'est sûr que tu vas gagner de donner un combat revanche. Ben oui.
Russ, donc là, on va arriver au sujet dans ce cas-ci. Tu l'as mentionné déjà à quelques reprises. Le 165 livres. Et là, la semaine dernière, on parlait avec Jean-Pascal au balado. Pour ceux qui l'ont manqué, il est encore disponible sur TVA Sports. Et Jean avait des choses intéressantes à dire par rapport à tout ce qui est le monde de la boxe et les tests antidopage et sa situation personnelle versus celle de Badou Jack. Et quand on regarde Devin Haney qui monte de 25 livres, là, on a comme deux problèmes, Russ. Je sais pas comment, de un, physiquement, si Devin Haney, l'association avec Victor Conte, on doit mettre des doutes. Ou de deux, le fait que les pesées sont de plus en plus tôt. C'est plus des pesées de 24 heures de différence. C'est rendu quasiment deux jours. C'était combien, Russ, avec le calcul? 36 heures?
36 heures, plus que 36 heures. 38, ouais.
38 heures. Entre la pesée Haney Progrès et le moment qu'il a monté dans le ring.
Oui. Et il a embarqué dans le ring comme un super moyen. Un super moyen. Il est un super léger. Il a embarqué dans le ring 38 heures après avoir pesé comme un super moyen. C'est laisse faire.
Il avait pas l'air gras là, dans le combat là, du tout. Là.
Laisse faire. Exact. Laisse faire le dopage. Laisse faire ça parce que je veux pas faire des accusations avec personne. On sait que dans tous les sports, il y a un problème de drogue. OK, parfait.
Est-ce que Tank Davis a soumis le doute par rapport à Haney?
Oui, il a soumis le doute. Parfait. Mais le fait qu'en tant qu'une commission athlétique, que tu es supposé d'être là pour protéger les boxeurs. Votre mandat en tant qu'une commission athlétique est pour protéger l'athlète. Ça, c'est le mandat numéro un. OK? Comment tu peux trouver ça acceptable que tu peux peser quelqu'un 38 heures avant son combat, puis soit justifié dans ton décision de dire oui, c'est correct. La seule raison pourquoi on veut qu'il y ait la pesée la veille de combat, c'est parce que il y a des gens qui ne sont pas capables de bien gérer comment qu'ils perdent leur poids. Et quand ils se pèsent la journée même, comme se faisait pendant 100 ans dans le monde de la boxe, les boxeurs, ils se pesaient à midi, la journée du combat, puis ils boxaient sur... T'avais pas le temps de se réhydrater comme il faut. Et ça met en péril...
Donc ça, c'est dangereux.
Si tu fais ton poids comme il faut, si tu es à ce poids-là, naturellement, ça ne fait pas... Oh, ça change rien, c'est parfait. C'est le plus juste chose que tu peux avoir de dire, OK, on pèse à midi, puis on boxe à 10 heures le soir. C'est le best, OK? Ouais. Le problème, c'est pour ceux qui ne sont pas à leur poids naturel, qui prennent des avis puis des opinions et des décisions de dire non, moi je vais perdre un autre 10 livres de plus et on est capable de sortir ça de toi. Fait qu'on a décidé de faire ça la veille. Et on a dit 24 heures. On fait une pesée 24 heures avant parce que ça prend 24 heures pour te réhydrater. Parfait, 24 heures. Ça veut dire que, normalement, les pesées devraient se faire alentour de 5 heures de l'après-midi, parce que c'est à 5 heures de l'après-midi que vous allez à l'aréna pour ton combat. Donc, 24 heures d'avance, OK? Tu peux pas peser tout le monde exactement. Un e-box à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures. Fait que, mettons, report time pour aller au combat, c'est à 5 heures de l'après-midi. Donc, tu fais ton pesée à 5 heures de l'après-midi la veille, c'est 24 heures. Matt, c'est rendu maintenant Devin Haney contre Lomachenko. C'est pesé à 9 heures le matin, le vendredi.
Oui.
Il est embarqué dans le ring à presque 10 heures, 11 heures le soir, côte de Eastern Time, là. Mettons 9 heures
en Californie.
À Vegas, à 9 heures
là. Oui, la comtesse.
Oui.
Et ça, c'est l'histoire de commencer maintenant à faire des pesées pour les gros combats. On fait des pesées le matin officiel. Après ça, les pesées de cérémonie qu'on appelle le soir, le jour même, comme avec la foule, le spectacle.
L'après-midi, mettons à 1h ou 2h de l'après-midi.
Puis ça, c'est la UFC avait commencé ça. Ouais. Et maintenant, la boxe a décidé de prendre une page de la UFC parce qu'il dit, écoutons, en même temps, si on a des problèmes, on peut l'adresser tout de suite, qu'on n'a pas des problèmes devant tout le monde, la foule, tout ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On donne-tu 2 heures? On a-tu un nouveau compte? Donc là, pas de surprise de cette manière-là. On fait ça avec juste la commission athlétique, quelques membres des médias. Et là, après ça, on fait ça devant la foule, le show, tout, la fausse pesée. Le soir, c'est rendu commun pour les gros combats.
Exact.
Mais donc là, donc le verdict, c'est rendu que les boxeurs sont 2 à 3 catégories de poids supérieures par le temps qu'ils s'affrontent dans le ring.
Exact.
Au poids.
C'est pour ça que tu t'es même plus capable de comparer les grands de les différentes époques ensemble, parce que maintenant, ces gars-là, c'est les boxeurs d'aujourd'hui, c'est impossible qu'ils seraient dans ces catégories-là s'il fallait qu'ils se pèsent la journée même du combat. Si c'était comme à l'époque, Sugar Ray Robinson battait, si c'était Leonard qui se pesait la journée même, impossible que tu ferais ces boxeurs d'aujourd'hui fassent le même poids.
Et moi, je sais qu'il y a un argument là, dans le monde de la boxe et des sports de combat, hein, souvent que le plus gros que tu peux être et le plus de poids que tu peux perdre là, pour réhydrater, ça, c'est le meilleur, ça va être un avantage et tout ça, mais j'y crois pas personnellement, Russ, parce que j'ai vu Mayweather et Pacquiao, deux des meilleurs de leur époque, étaient toujours ou presque toujours à leur poids avant le camp d'entraînement. Ils sont pas arrivés avec 30 livres à perdre dans aucun camp d'entraînement. Ouais, et là, maintenant, c'est rendu beaucoup commun qu'on va essayer d'avoir le plus gros gars pour... OK, je suis capable de même descendre jusqu'à 135. Je paye 160, je vais descendre jusqu'à 135, sinon plus même. Et je sais que cette mentalité-là, ils pensent que c'est leur avantage le soir du combat, mais sur le long terme, j'y crois pas.
Mais écoute, on peut donner, si tu veux pas donner l'exemple de Devin Haney qui s'est pesé à 140 livres puis il a embarqué dans le ring à 165. Shakur Stevenson, il s'est pesé 135 livres, il a embarqué dans le ring à 154. Tu sais, fait que ça vient commun maintenant de prendre 25, 20, 20. Avant, c'était 15 livres que tu prenais. Maintenant, ils prennent 25 livres, man, les gars. C'est plus pareil, man. On met les pesées plus tôt. Ça donne plus de temps. Ils mangent plus. Ils se réhydratent plus. C'est rendu ridicule, man. C'est rendu vraiment ridicule que t'es plus capable de s'en occuper de tout le monde comme il faut. Oui, il faut qu'on fait les pesées la journée avant, juste en cas, si ça protège un boxeur qui est mal géré. On lui protège, on lui donne le temps de se réhydrater, mais ça prend 24 heures pour te réhydrater. Quand tu dis, tu fais une pesée à 9 heures le matin, la veille, là, tu es juste en train de tricher. De tricher, je le dis, c'est du trichage quand tu fais ça à 9 heures le matin. Puis les commissions athlétiques sont complices de ce trichage. Sont pas là pour protéger le boxeur. Parce que quand quelque chose, si jamais il y a quelque chose de grave qui arrive à cause de ça, la différence de poids quand les deux hommes s'affrontent est beaucoup plus important que le même poids qu'ils ont fait 36 heures plus tôt.
Oui. Ouais. Et dans ce cas-ci, même pour Progrès, je pense qu'il était à 10 livres de moins que Devin. Ouais. Il avait pris une quinzaine de livres dans son cas. Peut-être un peu plus, mais ceci étant dit, quelque chose à suivre, Russ, par rapport à est-ce qu'on voit un changement, mais j'ai l'impression que ça va probablement être encore de plus en plus typique de voir des pesées 38 heures en avance du combat.
Exact. Puis qu'est-ce qu'ils vont aussi faire? Il peut plus le mettre plus tôt. 9 heures, c'est quand même le max. 9 heures le matin, t'es déjà sur la balance. Ça n'a pas de sens, là, man. Ça veut dire ton report time, il est à 8 heures le matin. Tu arrives là, commission athlétique sont là à 8 heures. Qui commence à travailler à 8 heures le matin? Donc, il ne peut pas mettre ça plus tôt que 9 heures. Mais regarde, quand ils vont mettre le combat plus tard. Tous les combats, on les voit, ils commencent tous plus tard. Le main event embarque dans le ring à minuit, Côte de l'Est. Minuit! Avant, tu embarquais dans le ring, main event, il embarquait dans le ring à 10 heures. Maintenant, tu embarques à minuit. Donc, calcule les heures que tu as de te réhydrater.
Sur le sujet de Devin Haney, mais avec un peu plus aussi d'ajout par rapport au boxeur de l'année. La conversation de boxeur de l'année 2023, ça l'achève. Il y a des gens qui croient que Devin Haney devrait être le favori. par rapport à son année. Voici d'autres candidats, Russ, puis je vous demande pour toi si c'est ces noms-là qui t'intéressent ou d'autres. Benavidez, victoire contre Caleb Plant et Demetrius Andrade, David Benavidez. Terence Crawford, cette grosse victoire face à Errol Spence, mais c'est quand même juste un gros combat. Inoue, Nayona Inoue, peut-être le meilleur boxeur livre pour livre, qui avait quand même battu Stephen Fulton, entre autres, et qui veut avoir un autre combat le 26 décembre prochain face à Marlon Tapales. S'il gagne contre Tapales, est-ce que Inoue pourrait être dans la conversation? Sinon, on a parlé de Devin Haney qui a gagné contre Lomachenko et Progrès. C'est pas une année comme on a déjà vu par rapport que c'est évident qui est le boxeur de l'année, mais parmi les noms qui sont mentionnés sur Boxing Scene, lequel, d'après toi, est le favori pour boxeur de l'année ou penses-tu que ça t'intéresse même pas? Il n'y a rien qui assez d'évident entre les quatre noms?
Je suis d'accord que Inoue est très talentueux, mais il n'a pas affronté l'opposition que deux personnes à qui je pense ont affronté.
Bon, allez, vas-y.
Et pour moi, je pense que tu peux faire un argument d'un bord ou l'autre entre Benavidez et Devin Haney.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Donc, M. Amber, avant cette petite pause non prévue, on est de retour. Ouais. Juste pour clarifier, on parlait des boxeurs de l'année 2023 potentiellement. Devin Haney, est-ce qu'il est le favori? Est-ce que c'est David Benavidez? Est-ce que c'est Terence Crawford?
Inoue
ou quelqu'un d'autre? Et t'allais dire que, selon toi, t'as deux noms en tête.
Moi, les deux noms que j'ai en tête, puis je dis, écoute, Inoue, il est très, très talentueux, puis t'as raison, il est un des meilleurs boxeurs livre pour livre. Faites face à l'opposition que les deux autres à qui j'ai en tête, OK? Oui, Terence Crawford a battu Errol Spence, mais comme tu viens de mentionner, il y a une victoire sur Errol Spence. Puis assez dominant, assez facile, OK? Il y a beaucoup de gens, et je pense la grande majorité des gens, qui pensent que Lomachenko a battu Devin Haney. Fait que même si, on the record, la victoire officielle, c'est une décision pour Devin Haney contre Lomachenko. Il y a beaucoup qui disent qu'il méritait pas cette décision-là. Donc, est-ce qu'il mérite d'être boxeur de l'année? On the record, oui. Par contre, David Benavidez n'a laissé aucun doute. Il a dominé deux boxeurs vraiment talentueux et pas juste d'un combat serré, de décisions partagées, que ça pouvait aller d'un bord ou l'autre. Non. Dominant du l'adversaire de classe mondiale.
Oui.
Là, on va dire, ouais, mais là, André, il a pas bien boxé. Il a pas bien boxé parce qu'il a fait face à quelqu'un qui était incroyable ce soir-là. Fait que pour moi, mon choix de boxeur de l'année, ce sera sur la scène internationale, au moins que tu me donnes d'autres noms à qui j'ai pas pensé, c'est David Benavidez.
Mais ça montre aussi à quel point qu'on parle de des gars qui ont boxé maximum deux fois par année être le candidat de boxeur de l'année. C'est ça aussi la nouvelle chose, hein, des gros combats.
On a une qui a boxé une fois dans l'année! Oui!
C'est pour ça que l'année que Canelo, il y a quelques années, qui avait décidé de boxer à plusieurs reprises, même si c'est pas toujours des gros noms. Il me semble que ça devrait être 3-4 combats par année, mais non, on est loin de cette époque.
Au niveau de boxeurs de classe mondiale qui affrontent des boxeurs de classe mondiale, comme soit champion du monde ou des gros aspirants d'un titre mondial, trois fois minimum.
Ouais.
Trois fois, tu devrais être capable de le faire. Si t'es pas capable de faire trois combats par année, là, écoute, c'est plus la boxe. C'est plus qu'est-ce qu'on était à une autre époque.
Quand on regarde la vision des 140 livres, Russ, on t'a parlé de Devin Haney, on en a parlé en masse, et quand on regarde Josh Taylor comme un des candidats, il y a eu une nouvelle intéressante, parce que boxeur de l'année, au niveau international, t'as parlé de David Benavidez, mais avant d'aller en ondes, avant d'enregistrer le balado, tu me parlais d'un nom en tête par rapport au boxeur de l'année canadien, Russ.
Oui, et là, quand on dit canadien, je parle pas de des gars comme Beterbiev, lui, il est champion du monde, OK? Mais pour les gars sur territoire canadien, et puis je dis pas juste québécois, canadiens, qui sont maintenant à la frontière de passer un combat d'un championnat du monde ou près d'un combat très, très important et d'un classement très, très important, moi, selon moi, le gars qui a affronté le plus difficile opposition puis qui les a maîtrisés à chaque fois qu'il boxait contre, c'est Steve Claggett. Pour moi, mon choix de boxeur de l'année, c'est Steve Claggett.
Et Steve Claggett, Russ, qui est un excellent choix, ce qui est intéressant par rapport à la nouvelle des 140 livres, avec son classement qui continue de monter, étant dans les rumeurs de combat de Josh Taylor. Et Josh Taylor, l'ancien champion de 140 livres qui a perdu contre Teofimo Lopez, est quelqu'un que tu connais très bien. Russ, tu as travaillé sur son coin lors du dernier combat de Josh Taylor. Qu'est-ce que tu penses d'un affrontement potentiel si Taylor et Catterall ne sont pas capables de s'entendre sur un combat revanche, que Taylor se garde occupé avec un combat d'un boxeur dans le top 15 des classements qui est Steve Claggett?
Moi,
j'ai
juste un problème avec ça.
Oui?
Moi, je suis en dedans et je le sais que Taylor veut boxer à 147 livres.
Okay.
Il veut plus rester à 140. Tu peux pas monter Taylor à 147 livres puis demander de faire face à Claggett que lui boxe à 140, mais il devrait boxer à 135. C'est un gars de 135 qui monte à 140 parce que personne veut l'affronter, et il faut qu'il cherche. Fait que là, il joue entre le léger puis le super léger. Mais impossible de penser de mettre Claggett comme adversaire face à Taylor à 147 livres.
Garde non, personne parle de 147.
OK, mais pour moi, Taylor veut faire 147.
Au moins mais Taylor veut c'est, non, les rumeurs de Catterall, c'est 140. Même si on dirait que Taylor c'est quoi l'expression? Je dis, c'est prise là, pour faire 140 livres. Ça devrait pas être le cas à sa grandeur, mais Taylor parle d'un dernier combat à 140 ou d'un deux derniers combats à 140 livres. Et ça inclut le combat revanche face à Catterall qui serait énorme en Angleterre.
OK.
Mais quand il a fait le poids contre Lopez, il a pas fait le poids facilement?
Moi, je pensais qu'il l'avait fait assez facilement. J'ai pas vu un problème de faire le poids. Honnêtement, j'ai pas vu le problème de faire le poids.
Pourquoi d'abord tu parles de 147?
Parce que lui, il parle de ça. Lui, il dit, c'était trop difficile pour moi, je peux plus le faire. Je veux aller à 147. Fait que, je sais pas, ça, c'est quelque chose, une discussion que j'ai besoin d'avoir avec Joe McNally, son entraîneur, pour voir qu'est-ce qu'il pense, mais ça fait depuis le combat contre Lopez, il parle de boxer à 147. Il est grand quand même, il est pas petit, il est vraiment grand.
Tu penses qu'on aurait une grosse différence dans le ring là, en termes de grandeur, Taylor puis Claggett, puis la force masse musculaire?
Tu t'en souviens pas, le dernier combat contre Claggett, on a dit, il est tellement plus petit que son adversaire, tu t'en rappelles, on était là.
Miguel Madueno est quelqu'un qui était à 135 livres, régulièrement.
Hey man, le gars, il était quasiment, on dirait, deux fois plus gros que Claggett, là. Imagine Taylor.
Il a perdu quand même presque tous les rounds.
Ouais.
Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant. Pour Claggett, on veut une opportunité, on lui souhaite une opportunité.
Mais si c'est à 140, j'ai aucun problème avec ça.
OK, mais qu'est-ce que tu penses de l'affrontement en termes des styles à 140?
Je pense que Taylor peut trouver la soirée longue.
Et c'est peut-être pour cette raison que Josh Taylor va quand même peut-être aller d'un autre côté. La rumeur a été officielle. Même Catterall a mentionné, écoute, si tu veux pas le combat, tu n'es pas prêt à accepter l'argent contre moi, contre Taylor, va te battre contre Claggett. Donc, le nom de Claggett contre Taylor, c'est un combat qui circule. C'est pas juste une rumeur sortie de nulle part.
Catterall veut que Taylor affronte Claggett pour que lui, il n'a pas besoin de l'affronter.
Peut-être. Claggett, c'est le boxeur qui est évité pendant longtemps la division, mais il y a d'autres gros noms à 140 livres. C'est pas juste Steve Claggett qui amène un style très difficile avec le volume et le cardio, mais t'as vraiment une division qui est équipé avec plusieurs boxeurs. Tu penses que Subriel Mathias et le monde sont excités de se battre contre lui?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a personne.
Evan Haney, il ne parle pas de Subriel Mathias à
140. Non.
Tu as une couple là, de vraiment boxeurs compliqués à 140 livres.
Puis, Mathias, il cogne en maudit, là. Il fait mal.
Un des meilleurs cogneurs, livre pour livre, avec Beterbiev et une couple d'autres, là, dans le monde de la boxe en ce moment.
Absolument.
Donc, en tout cas, on verra pour la suite des choses. Mais Steve Claggett, ton boxeur de l'année au Canada, 4 combats pour Steve Claggett cette année.
Tu vois?
Tiger avait promis plusieurs combats.
Puis, toutes des 10 rondes.
Toutes des 10 rondes.
Ouais. Ça, c'est un homme.
Toutes des 10 rondes et à 2 reprises dans les 2 derniers, a fait la limite et 2 autres fois avait réussi à gagner par knockout. Russ, avant de quitter, là, parce qu'on déjà dans le temps, on avance. Ton préféré, Jake Paul, ce week-end. Il me semble qu'on entend beaucoup moins parler des combats de Jake Paul qu'à une époque contre Andre Agassi. Et Jake Paul dit, là maintenant, il affronte juste des vrais boxeurs. Et Andre Agassi, qui est pas connu, on se souvient, tu avais regardé sa fiche sur BoxRec, pas une fiche très redoutable, mais Jake Paul veut quand même le vendre comme étant un défi important pour sa carrière. Arrive avec une fiche de 10 victoires, une défaite, mais Tommy Fury, on pensait que c'était un vrai boxeur. Finalement, on voit Tommy Fury qui parle d'affronter Roy Jones à 54 ans. C'est rendu un boxeur d'influenceur. Il est dans la ligue d'influenceurs. Il n'est plus dans l'intéressé de se battre contre des vrais boxeurs. Donc, qu'est-ce que tu penses de Jake Paul vendredi soir? Vas-tu être devant ton poste de zone, Russ, pour le combat de Jake Paul?
Tu me niaises, hein? Sérieusement, tu me niaises. Moi, Matt, j'ai 62 ans, OK? Il me reste plus de l'air dans mes, plus grand air dans mes poumons, OK? J'ai juste une certaine quantité, là, avant que je vais mourir, OK? Ça me tente pas de le gaspiller, les derniers air que j'ai dans mes poumons, puis parler d'un combat de Jake Paul qui va avoir lieu vendredi soir.
Mais je pensais que tu disais que c'était l'autre fois quand le combat avait été annoncé. T'étais pas aussi négatif. Tu disais que c'est un gars à son niveau, c'est le genre de combat qui a de l'allure. La différence, c'est que ça ne mérite pas être tête d'affiche.
Mais ça mérite pas d'être parlé sur les balados puis dans des journaux, puis le tête d'affiche. Non! C'est un combat de 4 rondes, man! C'est un combat de 4-6 rondes, là, un combat préliminaire! That's it! C'est la qualité d'un combat de préliminaire! Pas de parler de ça comme un main event, puis tout le show il est autour de ça. Mais. Encore, sont capables de le faire. Sont capables, ils vont
voir. On verra, parce que je ne sais pas à quel point que l'intérêt de Jake Paul a baissé un peu. On verra, dans le fond, le feedback par rapport aux chiffres, même si c'est pas.
Il a aussi dit quelque chose qu'absolument il veut affronter Canelo.
Et toi, Russ, tu avais parlé que Canelo, tu crois maintenant, de la façon que Canelo opère, qu'on va peut-être voir un Canelo Jake Paul d'ici les quelques prochaines années.
Écoute, si Canelo peut le pincer, man.
Ouais, t'aimerais ça? T'es pas un fan de Canelo dernièrement, mais tu serais un fan de Canelo contre Jake Paul.
Non, même à ça, je serais peut-être insulté qu'il donnerait une opportunité là, parce que quelqu'un qui va affronter Canelo, peu importe que t'es bon ou pas bon, c'est sûr que tu vas négocier le plus gros payday de ta carrière. Oui. Et je pense pas que certains gens méritent d'avoir le plus gros payday de leur carrière parce qu'ils font face à Canelo.
Mais faut voir qu'est-ce que Canelo, Jake Paul, c'est peut-être plus aussi, incroyable qu'on aurait pu croire, parce que encore Mauricio Sullivan cette semaine qui a dit Benavidez est obligatoire, mais on n'est pas pressé.
Ah ouais, exact.
Donc Canelo, je veux dire, là, on ne sait pas encore, pas d'annonce. On a parlé dans le balado aussi la semaine dernière, deux balados la semaine dernière pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez aller écouter ça. Mais Canelo, on n'a pas encore d'annonce officielle pour son prochain adversaire, mais ça ne semble pas être Benavidez. Et il est peut-être à une année ou deux avec tout l'argent que Canelo a récolté dans sa carrière. Il n'est peut-être pas obligé non plus. Là. Ça se peut que il va vouloir se tourner vers des combats influenceurs style comme Jake Paul pour de l'argent facile au lieu d'affronter les meilleurs de la division.
Je pense pas qu'il va tourner pour ça. Non, parce qu'il peut se faire ridiculiser beaucoup s'il fait cette move-là. Quand t'as un gars qui est aspirant numéro un, il a battu pour avoir cette place-là, il a des ceintures, il est intérim, je sais pas trop quoi, puis là, t'acceptes d'affronter. Il est mexicain quand même, il a un certain orgueil en lui, là, tu sais. Non, ça me surprendra pas qu'il va affronter Jake Paul puis laisser Benavidez là. S'il prend sa retraite, s'il change de division, s'il fait quelque chose, OK, pour éviter Benavidez, oui. Mais je pense pas qu'il pourra accepter un combat contre Jake Paul puis éviter Benavidez. Il va se faire humilier.
C'est à suivre, Russ. Donc, Jake Paul contre André Agassi vendredi soir. On a également de l'action tout au cours des prochaines semaines. Et toi, tu pars, Russ, pour... Arabie Saoudite.
Oui, mais dis à les gens le fiche de 10-1. Dis à les gens, les gars, que ce gars-là, André August, comment il s'appelle?
Oui, André August. Non, c'est vraiment pas fort.
C'est incroyable comment n'importe qui peut devenir boxeur professionnel puis gonfler leur fiche à 10-0, 10-1, puis t'as affronté personne. Puis t'as pas affronté aucune qualité.
Ouais, dans le fond, des victoires contre des boxeurs de fiche gagnantes, c'est à ses deux derniers combats. Le mois d'août 2013 contre un Brandon Martin à 7-0, un combat de 6 rounds. Et après ça, ça remontait. En 2019, il n'avait pas boxé en 4 ans. Il avait gagné un combat contre un gars de 4-3, Centurio Martin. Le reste de ses combats, tous contre des adversaires avec des fiches perdantes. Et là, il y a l'adversaire de Jake Paul pour un combat de 8 rounds en tête d'affiche. En Orlando, qu'on dit que c'est le gros boxeur.
Dites-moi les fiches de les boxeurs qui a battu.
Ah non, j'ai dit, c'est pas gagné, on n'a plus le temps. Là. 7-13, 5-16, 6-25, 0-4, 0-1, 1-1 et des trois gars qui ont fait leur début professionnel.
Okay. Fait que bon. Ça donne un indice de quelle sorte de boxeur qu'on a. Puis il n'a pas boxé depuis 4 ans.
Non, il avait boxé une fois en 2023. Excuse-moi. Mais avant ça, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas boxé.
OK.
C'est bon.
Qualité. La boxe, qualité, man. Yes, sir.
Bon, Russ, on souhaite un bon voyage en Arabie Saoudite. On
va se
parler en direct de Riyad la semaine prochaine. Ça, c'est un gala et une carte de qualité qu'on va avoir lieu le 23
oui,
décembre.
Oui. Ça va être.
On me confirme que tu as un siège du milieu en classe économique pour ton voyage, Russ. Donc,
rangé 38.
Ah oui, hein?
T'es-tu malade? T'es-tu malade?
Bon, Arsène Beck, il faut qu'il s'assure que Tyrus voyage en classe affaires.
Exact.
Bon, Monsieur Amber, bonne semaine. Merci aux gens de nous écouter. Et vous pouvez nous écrire le dernier round box à gmail.com. Bonne semaine, tout le monde.
Le dernier round box à gmail.com. Very good, Matt. Good. Bon email, ça. OK, bon week-end.
Bon week-end, tout le monde.
Salut.